Isabelle.
Allô Josée, ça va?
Ça va super bien, toi? Bienvenue tout le monde.
Bonjour oui. tout le monde.
Bienvenue tout le monde à Neurojazette pour un 5e épisode déjà.
Déjà,
on est déjà rendu là. Et aujourd'hui, on avait pensé vous faire un cadeau de Noël.
Oui, on aime ça donner des cadeaux.
Oui, c'est ça. On est très généreuses. Surtout nos invités qui sont très généreux. On a décidé d'inviter quelqu'un qui change la vie des personnes issues de la neurodiversité. Oui. Des gens comme Isabelle et moi. Et comme les auditeurs, probablement. Alors, mais avant de vous parler et de vous présenter notre invité aujourd'hui, on va parler des aristopathes. Hein, Isabelle? On donne un petit peu d'antenne aux aristopathes. Ce ne sont pas nos commanditaires. On le fait, on veut aider à la hauteur de nos moyens cet organisme-là qui vient en aide aux chats et aux chiens errants et malades. Donc, ils sauvent des vies. Et je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est possible de donner un tout petit montant mensuellement. Et ça assure d'avoir des fonds toujours disponibles pour sauver des vies, justement. Donc, oui. Plus il y a de gens qui vont donner, plus il y a de vies qui seront sauvées.
Absolument. On les aime, les petits chats et les petits chiens. On les aime tous.
Oui, c'est ça. On les aime beaucoup. Alors, ceci étant dit, je fais entrer notre invité. Je vous le présente, Martin Prévost de NeuroPlus. Bonjour, Martin.
Bonjour, Martin.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Merci, vous.
Oui.
Très, très bien.
Super bien. Alors, Martin, je vais tout commencer par mettre des petits messages qui glissent sous notre écran pour parler de NeuroPlus qui œuvre justement pour l'employabilité des personnes issues de la neurodiversité. Et toi, Martin, c'est quoi ton rôle chez NeuroPlus?
Moi, je suis directeur de l'accompagnement. Alors, c'est une, on pourra en parler, mais c'est une des composantes essentielles de notre façon de travailler, l'accompagnement. Puis, quand on est dans directeur de l'accompagnement, ce qu'il faut retenir, c'est surtout le mot accompagnement.
Oui.
Alors, oui, je suis responsable de l'accompagnement, mais je fais moi-même de l'accompagnement.
Oui, c'est ça. Hein? Il y a plusieurs personnes maintenant qui sont consultants chez NeuroPlus. Là. Ça grossit de plus en plus, mais pourtant, l'entreprise est tellement jeune que c'est un franc succès. Hein? On est content.
Ça se passe bien.
Oui. Alors, comment ça se passe, Martin, quand quelqu'un comme moi ou Isabelle, on est autiste, comment ça se passe si on cherche du travail, ça ne fonctionne jamais, on perd nos emplois, puis là, on entend parler de vous. On fait appel à toi, à qui on fait appel en premier?
Bien, en fait, ce qui est assez facile, c'est d'aller sur notre site, bon, neuroplus.org.
Oui.
Et puis, de s'inscrire, c'est assez facile de trouver, là, inscrivez-vous, on va sur la page emploi ou ailleurs. Donc, on s'inscrit, il y a un petit questionnaire à remplir, et puis à partir de là, ben, la personne est contactée. Habituellement par mon collègue Bruno Vicaire, qui est le directeur du recrutement. Alors, mais nos coordonnées sont sur le site, les coordonnées des trois cofondateurs, mais effectivement, c'est plus Bruno qui s'occupe des premières étapes au niveau du recrutement.
OK.
Et avant d'aller plus loin, je veux juste distinguer une chose ici. Nous, c'est un processus de recrutement qu'on appelle et non pas un processus de sélection.
Ah!
C'est quoi la différence?
La différence, c'est que, par exemple, un processus de sélection, on va dire, il y a des critères, il y a comme une note de passage, puis si tu atteins la note de passage, tu es accepté. Bien, nous autres, on essaie d'être plus inclusif que ça. Donc, l'idée, c'est de dire, on s'adresse à des personnes. Bon, Josée, tu as parlé de personnes issues de la neurodiversité. Maintenant, nous, on a tendance à parler des personnes neurodivergentes ou neuroatypiques, parce qu'en réalité, la neurodiversité nous inclut tous.
Oui, donc, c'est vrai, tu as raison.
Elle est plus avec ce vocabulaire-là, mais bon, on se comprend. Alors, nous, au fond, les gens qu'on va accueillir chez nous, ce sont des gens qui se considèrent neuroatypiques. Des fois, ils n'auront pas été déclarés formellement avec un diagnostic, soit il y a un TDAH ou de l'autisme ou une douance. Mais ils se considèrent comme ça et ils rencontrent des difficultés à s'intégrer sur le marché du travail ou à s'y maintenir ou à avoir un emploi qui leur convienne bien, donc à être heureux au travail. Donc, la démarche, c'est de s'inscrire sur le site ou de téléphoner, c'est correct. C'est un premier contact, ça peut être par courriel. Nos adresses sont sur le site, nos numéros de téléphone sont sur le site.
C'est vrai.
Donc, un premier contact. Ensuite, il y aura une entrevue d'accueil qui se fait en visio pour le moment. Autrefois, on a déjà travaillé ensemble plus avant et plus longtemps avec Bruno, Pierre et moi, puis c'était en personne. Mais là, on a pris l'habitude durant la pandémie d'utiliser les moyens technologiques. Et en même temps, bien, ça nous permet d'être ouvert à des gens d'un peu partout.
Ben oui, c'est ce que j'allais dire.
Les gens de Montréal, on a des gens, par exemple, des gens qui peuvent être de Montréal puis travailler à Calgary. Pour une entreprise à Calgary, en fait, où quelqu'un peut être au Nouveau-Brunswick et travailler au Nouveau-Brunswick, mais avec notre aide à partir de Montréal. Donc, c'est assez vaste, nos possibilités de ce côté-là. Donc, la personne a une entrevue d'accueil. On s'assure que notre modèle d'affaires, notre modèle d'intervention et de soutien peut lui convenir. Donc, on répond à ses questions. On pose quelques questions aussi pour commencer à en savoir plus sur la personne. Puis là, ça devient assez important à ce moment-là dans notre processus de recrutement. Nous, l'idée, c'est de bien connaître la personne. Donc, on a un peu plus d'étapes que quelqu'un, par exemple, qui se propose pour un poste, qui passe une entrevue d'embauche et tout. Et ça s'arrête là, puis il est pris ou il n'est pas pris. Nous, ça va un peu plus loin. Donc, on a différents outils. Je ne donnerai pas tous les détails, là, mais on a différents outils. Puis selon le profil des gens, on va utiliser certains outils ou d'autres. Par exemple, des gens qui sont en technologie de l'information, bien, on a un autre questionnaire en ligne qui est juste pour ça.
OK.
Bien, c'est pas tout le monde qui va le faire parce qu'il y en a qui travaillent en marketing, en finance, ils veulent faire du travail de bureau. Bon, à ce moment-là, ils n'auront pas besoin de passer des tests comme ça. Et un élément peut-être particulièrement intéressant de notre processus de recrutement, c'est le séminaire de recrutement. Où là, on réunit des participants et des participantes pour une demi-journée. Et puis, on les met en situation. Bon, ils ont un ou deux exercices, pas un ou deux, on précise, ils ont deux exercices individuels, mais ils ont surtout des exercices à faire en équipe. Puis, on fait même varier les équipes durant le séminaire. Donc,
je vois Isabelle faire « ish ».
Ça a l'air épeurant, ça!
Ben, là, on va essayer de rassurer les gens peut-être aujourd'hui.
Mais, oui.
Faut déjà savoir que le séminaire de recrutement, ce n'est pas une activité de compétition.
Non.
D'accord. D'ailleurs, pendant tout notre processus de recrutement, il n'y a pas de score. Dans nos outils d'évaluation, il n'y a pas de score à la fin. Donc, même il y a un questionnaire où on répond sur une échelle de 1 à 5, mais on n'additionne pas les points à la fin. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir un bon portrait de la personne pour être en mesure de choisir des bons milieux de travail pour elle, puis d'être capable de savoir ça va être quoi ses principaux besoins. En termes d'accompagnement, est-ce que ça va être vraiment plus au début pour le processus de sélection chez notre client pour obtenir un mandat, donc qu'on embauche la personne pour faire un mandat chez notre client, ou ça va être peut-être plus par rapport à son environnement de travail. On a des gens qui ont des enjeux sensoriels. S'ils travaillent chez eux, ça va bien, ils ont le contrôle de l'environnement souvent, mais s'ils travaillent en entreprise, ils ont peut-être moins le contrôle, donc on va regarder s'ils ont des enjeux, il va falloir en tenir compte. Est-ce que, par exemple, le milieu est accueillant pour la personne ou s'il ne l'est pas tout à fait, est-ce qu'on peut le modifier? Donc, on va apprendre plein de choses comme ça dans notre processus de recrutement avec les gens. Si je reviens au séminaire de recrutement, bien là, c'est ça, on est mis en situation. Puis non, on n'annonce pas à l'avance ça va être quoi les exercices. Puis pour certains, c'est ça, bien, faut juste se dire, regarde, on fait ce qu'on peut. Ouais. Puis, il n'y a pas de notes. Donc, on ne peut pas échouer au séminaire de recrutement. Okay. Fait qu'on fait ce qu'on fait ce qu'on est capable de faire. Puis, en même temps, chez nous, il y a beaucoup de souplesse. Là, je vous parle des étapes du processus de recrutement. Il peut arriver qu'on n'a même pas fini de faire le processus puis qu'on place déjà quelqu'un.
C'est ça.
OK.
Bon. Il pourrait arriver que quelqu'un, malgré ses efforts, malgré nos adaptations, malgré notre souplesse, ne réussissent pas, par exemple, à faire le séminaire de recrutement. C'est le genre de situation qui ne lui convient vraiment pas. Bien, on va faire d'autres choses pour apprendre qui est cette personne-là en équipe, par exemple.
OK.
Donc, notre but, c'est ça, on n'a pas une recette. On a vraiment des outils, puis on a beaucoup d'ingrédients, puis la recette va changer selon l'individu.
D'une personne à l'autre.
Qui fonctionne. Ça. Puis des fois, mais il y en a un, bien, regarde, lui, c'est pas du massis que tu vas mettre dans son truc, c'est de la cardamome.
Ouais.
Ben, c'est correct. vocabulaire qu'on connaît, puis on va l'utiliser. Donc, ça, on fait preuve de beaucoup de souplesse de ce côté-là. Fait qu'en gros, pour le quand ça commence au départ, c'est vraiment participer au processus de recrutement. Donc, apprendre à échanger avec NeuroPlus, apprendre à établir un lien de confiance, établir un mode de communication efficace. Tout le monde n'a pas les mêmes choix au niveau de la communication. Puis, après, donc, on apprend à se connaître, puis on va être plus capable de travailler ensemble.
Dans le fond, ça devient, vous devenez des alliés de la personne neurodivergente pour qu'elle puisse réussir.
Exactement. Puis la particularité quand même chez nous, c'est que nous, bon, on n'a pas défini le modèle d'affaires tantôt, mais nous, en fait, on recrute des gens, puis ouais. On leur cherche des mandats qui correspondent à leurs compétences, bien sûr, et à leurs intérêts, et à leurs forces et leurs besoins particuliers. Puis quand on en trouve un mandat, bien, on embauche la personne, puis on la fait travailler pour notre client, donc l'entreprise chez qui on a trouvé le mandat.
Oui.
Et notre rôle est double. C'est-à-dire qu'il existe ailleurs, par exemple, dans le réseau communautaire, entre autres, tout un réseau d'organismes d'employabilité, dont plusieurs s'intéressent, entre autres, aux personnes neuroatypiques aussi. Bon, ben, ils ont un rôle un peu différent. Eux autres, je viens de ce réseau-là. J'ai travaillé très longtemps.
C'est vrai.
Alors, ben, on place les gens chez des employeurs. Donc, l'organisme ne devient pas l'employeur de la personne.
Non, c'est ça.
C'est un organisme, une ressource, où il y a une forme de relation d'aide au niveau de l'employabilité pour aider à trouver du travail puis à le garder. Fait que l'objectif de ces organismes-là est le même que le nôtre. Favoriser la carrière des personnes neuroatypiques. Par contre, nous, on les embauche. On a un double rôle. On est un organisme d'employabilité.
Oui.
Donc, on a une spécialité pour aider des personnes à obtenir et garder un travail. Mais on est aussi l'employeur de ces gens-là.
C'est ça.
Donc, il y a une beauté là-dedans, c'est qu'en étant l'employeur, ben, on s'assure de contrôler un peu plus une partie du processus. Parce qu'on se connaît comme employeur. Donc, on sait ce qu'on est capable de faire. On le sait d'avance. On connaît notre souplesse. Puis, on a des compétences spécifiques. Alors qu'un autre employeur, plein de bonne volonté, c'est la première fois qu'il se fait proposer la candidature d'une personne neuroatypique, bien, peut-être qu'il ne saura pas trop comment s'y prendre. Peut-être qu'il va avoir besoin de plus de soutien. Puis, des fois, il ne saura pas où aller chercher le soutien. Bien, nous, c'est nous qui embauchons, puis c'est nous qui offrons le soutien.
C'est ça. Donc,
tout ça. Puis,
l'accompagnement que tu fais, toi, Martin, un exemple d'accompagnement, c'est que tu rencontres la personne, pas quotidiennement, mais hebdomadairement, je pense. Hein?
Oui, bien, c'est ça. D'ailleurs, ça aussi, c'est souple, mais oui, on se donne des petites bases quand même. Quand, par exemple, on embauche quelqu'un pour un mandat chez un de nos clients, bien, là, il y a tout un soutien qui est là. Il y en avait d'ailleurs avant qu'il commence chez le client, c'est-à-dire qu'on a, pour le processus de sélection du client qui va choisir notre candidat, parce que des fois, on a plusieurs candidats pour un même poste, d'ailleurs, candidat ou candidate. Bon, bien, là, il y a un processus où on va préparer notre client à faire une entrevue plus inclusive. Puis, comme éviter des questions qu'on entend en entrevue parfois, parlez-moi de vous.
Ben oui!
Pas grand monde qui l'aime, celle-là. Quelles sont vos grandes passions?
Oh boy!
Comment peut-on bien évaluer la réponse à cette question-là dans une entrevue d'embauche? Je me dis toujours, est-ce que si ma passion, c'est de mettre des photos de petits chats sur Facebook, est-ce que c'est mieux ou moins bien que la cuisine asiatique ou l'astronomie? Alors, on essaie de former nos clients. Ben, pas on essaie, on forme nos clients à avoir des questions plus spécifiques à l'objectif de l'entrevue. Donc, souvent, beaucoup plus collé sur la tâche et sur la compétence requise pour la tâche, sur l'expérience de la personne. Puis, des fois, oui, il y a des questions, par exemple. Ah, mais là, si on t'offrait le choix dans l'entreprise entre être, chef d'équipe ou une entreprise de finance, chef d'équipe ou comptable, qu'est-ce que tu préfères? OK, ça peut être des fois pas trop facile à répondre, mais c'est des questions qui sont quand même liées à la tâche. On prépare nos clients. On prépare nos consultants aux entrevues, bien sûr, et on les accompagne.
Donc, mais c'est ça,
déjà là. Ils commencent. Puis même des fois, il y a des gens qui vont venir nous voir. Il va falloir les aider dans leur choix de carrière. Ils arrivent nous voir. Ils ont déjà essayé des choses. Ils ont suivi plusieurs formations. Ils ne savent pas où ils en sont. Ils ne savent pas où ils veulent aller trop.
Ils ne savent plus où donner de la tête, là.
C'est ça. Ils ne sont plus certains. Puis ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'être guidés. Bien, ça, on sait faire ça aussi. Ça s'appelle de l'aide aux choix professionnels. Donc, ça aussi, ça fait partie de tout le soutien qu'on peut apporter à la personne. Quand la personne est choisie, avant de se rendre au suivi hebdomadaire, Josée?
Oui.
Quand la personne est choisie, bien, on va aussi préparer son arrivée dans le milieu de travail.
Oui, c'est vrai.
Donc, on va faire une séance d'information à son milieu de travail. Puis, par exemple, sa superviseure ou son superviseur va avoir déterminé qui va assister à la rencontre, soit les 4 collaborateurs les plus proches ou les 12, ou peu importe. Mm-hmm. Puis, on va présenter, au fond, dans cette séance-là, habituellement, parce qu'il peut y avoir des variantes, selon aussi les préférences de la travailleuse ou du travailleur, bien, on va présenter de l'information sur la condition qui caractérise la personne. Par exemple, la personne est autiste. Bon, oui. On va parler de l'autisme en général. On va bien dire que c'est pas l'autisme de cette personne-là se manifeste comme ça, mais de l'autisme en général. On va parler de NeuroPlus pour que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on fait de l'accompagnement et à quoi ça va ressembler. Et on va finir en présentant un petit portrait de la personne.
C'est ça.
Donc, ce portrait-là, avec quoi on a pu le faire, avec tout notre processus de recrutement, on a recueilli l'information. Et là, on reprend les propos et les informations de la personne et on en fait quelques énoncés, une dizaine d'énoncés, par exemple, qui vont parler des forces de la personne. On va dire c'est sa créativité ou c'est sa motivation ou sa capacité à vérifier les détails, à faire du compte, peu importe. On va parler aussi de ses préférences. Donc, par exemple, quelqu'un préfère, s'il doit éventuellement parler durant la réunion d'équipe, il faudrait qu'il soit prévenu d'avance.
Ouais.
Parce que sinon, il trouve ça plus difficile. Mais c'est sûr que s'il choisit le poste, il sait qu'il va parler en réunion d'équipe. Donc, c'est un choix conscient. Là. On a eu la description de poste, on a posé des questions.
C'est ça.
Et on peut avoir des préférences pour mieux réussir une tâche ou être plus confortable dans
c'est une... ça.
Donc, on fait cette séance d'information-là. Ensuite, la personne commence. Et oui, là, on va avoir des rencontres régulières. Au début, c'est hebdomadaire. On se met un minimum d'une rencontre par semaine avec la consultante ou le consultant. On les appelle comme ça une fois qu'ils travaillent. Ils sont nos employés, mais ils sont consultants chez nos clients. Fait, quand je dis employé puis quand je dis consultant, pour moi, c'est la même personne. C'est juste
la même chose.
Qui regarde. Si c'est le client qui regarde ou si c'est nous, l'employeur. Mais... on va rencontrer la personne et c'est dans le cadre de son travail. Ça fait partie de sa tâche. Quand quelqu'un, une entreprise décide de faire affaire avec NeuroPlus, bien, ils comprennent que d'avoir l'accompagnement, d'avoir des rencontres de suivi, ça fait partie de la tâche. Donc, ce n'est pas des heures coupées sur sa paye. Là, quand il est en rencontre avec moi, si ça dure 10 minutes ou une heure, c'est dans le cadre de son travail.
Okay.
Bon, des fois, ça va être en dehors des heures parce que ça ne correspond vraiment pas. La personne fait un travail qui est sur place, elle ne peut pas s'isoler pour faire. Bien, on va la faire à 5h30. Bon,
c'est ça.
Ça. Mais
vous adaptez.
Bon, pas le choix. Si on veut que ça fonctionne. Et il y a aussi, bien sûr, des suivis avec le superviseur ou la superviseure.
OK.
Donc, parce que nous, on va avoir le point de vue de la personne, on va dire comment tu vas, puis là, je vais rentrer dans qu'est-ce qu'on touche dans l'accompagnement, mais. Donc, on a des suivis réguliers avec notre consultante ou notre consultant et aussi avec la personne qui la supervise. Donc, on appelle le répondant ou la répondante. Donc, c'est une personne à qui notre employé fait référence rapidement. Il y a quelque chose, j'ai des besoins, c'est à toi que je m'adresse. Puis bien sûr.
Ça, c'est déterminé à l'avance, cette personne.
Ça, c'est déterminé avant que la personne entre en poste. Puis bien sûr, si on dit OK, mais là, si le répondant n'est pas là, à qui je m'adresse? Bien, ça aussi, on le demande. Et si la deuxième personne n'est pas là, à qui je m'adresse? D'accord. Donc, on s'assure d'avoir de l'information. Puis aussi, on assiste normalement le premier matin, entre le début, les premières heures de travail de la personne, on est aussi présent.
Ah, c'est vraiment
bien. On va avoir une séance d'accueil, c'est ton arrivée en poste. Donc, tu as une séance d'accueil avec ton superviseur ou deux, trois personnes qui vont te présenter un peu plus l'organigramme de la compagnie, les politiques, le portail, où aller voir l'information dans notre portail à l'interne pour voir où sont nos outils. Bon, bien, nous, on assiste aussi au début de ça. Pour avoir la même information, c'est plus facile après ça quand la personne réagit par rapport à sa tâche, à comment elle est accueillie. Bien, on a déjà compris aussi comment ça fonctionnait. Donc, on assiste aussi au début d'emploi, là, pendant 1 à 3, 4 heures. Ça dépend toujours des fonctions de la personne puis de l'organisation.
C'est quoi les commentaires des consultants, Martin, face à ce genre d'accompagnement-là que vous faites?
Bien, en fait, comment je pourrais dire, donc? On n'a pas tant de commentaires que ça nécessairement, mais c'est parce qu'on ne pose pas nécessairement toujours la question non plus.
Okay.
Mais
bon.
Donc, on leur en pose pas mal de questions à nos consultants quand on fait les suivis, là. Mais en fait, moi, il y avait même une chose, j'ai été un petit peu surpris parce que le double rôle d'être l'employeur et d'être la personne qui est en relation d'aide avec toi.
Oui,
on
parce que c'est une relation d'aide.
Ça se pouvait que ça soit un peu étrange pour certaines personnes. Et finalement, non. Même on aurait pu avoir des candidats, par exemple, qui disent « Ah non, votre modèle, je ne le comprends pas. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas être mon patron puis la personne qui m'aide. »
OK, oui.
Mais ce n'est pas arrivé. Puis, en quelque part, on peut aussi se poser des questions sur l'organisation du marché du travail en général. Effectivement, moi, j'ai appris que, bon, je suis gestionnaire depuis des années, là. J'ai appris qu'un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui s'occupe de son monde.
Oui.
Qui les aide à être confortables dans le travail, qui les aide à évoluer dans leur carrière. Ça fait partie du rôle de gestionnaire. Donc, au fond, c'est pas si bizarre que ça. Mais, hein, mais ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de gens, José, qui nous disent en fait, quand on annonce qu'est-ce qu'on offre comme soutien,
oui,
il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais comment ça se fait que personne n'a pensé à ça avant? Ou sinon, mais comment vous avez fait pour savoir ce dont j'avais exactement besoin?
Wow!
Ça ressemble à ça. Cette semaine, un nouveau candidat en entrevue d'accueil, il dit, mais là, attendez une minute, là, si je comprends bien, puis là, il me donne sa vision de notre service et tout, puis là, il dit, vous êtes comme un bon père de famille.
Oui, mais c'est ça.
Oui, un peu. Bon, sans être, c'est un vocabulaire, on s'entend, là, qui
est... Non, c'est ça, c'est pas le...
Bon, famille, là, ou un parent non genré, c'est pas important, là.
Oui.
Parent, on va dire ça, un bon parent. Un petit peu, d'une certaine manière, évidemment, on rentre pas trop dans les affaires, on parle de professionnel ici, là. On parle du parcours professionnel de la personne, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a ça, il y a le modèle, mais il y a aussi le fait que comme on est qualifié, comme il y a un bon bagage d'expérience dans notre équipe, c'est sûr qu'on a une bonne compréhension du vécu des gens qui viennent nous voir. Donc déjà, on sait qu'il y a toute une... Il y a des gros enjeux qui sont liés pour toutes les personnes qui sont un peu différentes de la norme. Peu importe les raisons, tu arrives d'une autre culture, tu n'es pas de la même génération, tu n'es pas de la même identité de genre ou tu es une personne en situation de handicap. Si on ne se met pas dans la peau de l'autre, on n'apprend pas, puis on ne s'éduque pas à la réalité de l'autre, ben on n'est pas aussi bon pour l'accompagner.
C'est vrai.
Parce que si on comprend plus la situation, ben qu'est-ce qu'on va faire? On a des chances de faire des interventions plus adaptées.
Oui.
Des chances de développer des outils plus adaptés. Puis devinez quoi? Nos outils, ben ils passent régulièrement au hachoir.
Si je peux me permettre.
Ah bon?
Et que, ben, on pensait que ça serait bon. Puis la personne nous dit non, ça ne marche pas avec moi.
Ah, c'est ça.
D'accord. Est-ce que tu as des suggestions? Ou, non, mais trouve quelque chose de mieux. D'accord. Des fois, il y a des suggestions. C'est toi le spécialiste. Fait que trouve quelque chose. Je rigole un peu, là, mais c'est comme ça qu'on évolue.
C'est sûr.
Puis moi, je dis souvent, en plus, il faut accepter d'être surpris.
Oui, hein?
Il faut accepter de se remettre en question. Mais il faut accepter d'être surpris aussi. Puis être surpris, ça veut dire, par exemple, quelqu'un nous a dit, « Oh non, ces conditions de travail-là, moi, c'est impossible pour moi.
Ah, »
D'accord, okay. On va aller vers d'autres choses. Puis à un moment donné, la personne a dit, « Tu sais, tu m'avais parlé de quelque chose, mais que tu me disais que c'était pas pour moi à cause d'eux, parce que je t'avais dit non. Ben, je suis prête à l'essayer. »
Ah.
D'accord.
Ben, donc, il y a de l'ouverture, ça prend de l'ouverture des deux côtés.
Exact. Puis, je veux dire, on va pas dire, ben non, tu m'avais dit que tu n'étais pas capable. Regarde, si tu me dis là, tu penses que tu es capable, ou ça t'intéresse de l'essayer, je peux te poser deux, trois questions, voir qu'est-ce que tu comprends exactement de la chose, mais tu peux y aller, on va y aller. Je veux dire, le plus grand spécialiste d'une personne, ça sera toujours la personne elle-même.
Tu as bien raison.
C'est vrai.
Tu as bien raison.
Et je vais poursuivre. À moins que tu aies une question, Josée.
Ben, j'ai une question, oui. Vous faites aussi, si je m'abuse, de la formation à l'entreprise?
En effet, on a une offre de service concernant, je dirais, de façon générale, ce qui touche pas mal l'inclusion sur le plan professionnel. Donc, par exemple, il y a des entreprises qui nous ont demandé de la formation sur l'entrevue inclusive. Bon, tantôt, j'en ai parlé, qu'on préparait les gens à le faire, mais ça, c'est quand ils prennent quelqu'un de chez nous, bien là, on va leur offrir. Mais s'ils ne sont pas clients chez nous, ils peuvent être clients juste pour de la formation. S'ils ne prennent pas un consultant ou une consultante, ils peuvent acheter de la formation. On a eu des demandes pour l'entrevue inclusive. On a eu des demandes sur comment créer un poste de façon inclusive ou comment afficher un poste de façon inclusive aussi.
Intéressant, ça.
C'est des exemples. Donc, on peut aussi offrir un service d'analyse. Quelqu'un met sur pied une politique d'équité, diversité, inclusion, par exemple. Il s'essaye comment? Bien, on peut offrir un service d'analyse et de conseil, de dire, bien, écoutez, ça, on pense que oui, c'est bon, ça, c'est moins bon.
Parce que l'inclusion, là, c'est un grand mot qui veut dire beaucoup de choses, à mon sens, mais on le voit de plus en plus. On a juste à se promener sur LinkedIn. On voit beaucoup de gens qui travaillent pour l'inclusion puis qui promeut l'inclusion en entreprise.
Oui, tout à fait. Puis moi, il y a quelque chose, je vais peut-être juste m'en profiter pour passer un petit message éditorial. ça fait longtemps que je fais de l'inclusion, mais on ne l'appelait pas comme ça avant. Mais okay. C'est qu'au fond, il y a des façons de regarder les choses. Puis ce qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises qui créent un département diversité, équité et équité, diversité, inclusion.
Oui. D'accord,
je ne sais pas dans quel ordre, là, mais ils créent un service pour ça.
Uh-huh.
Ils créent un service à part.
OK. Il n'est pas inclus.
Une équipe de ressources humaines qui devrait s'occuper de l'équité, la diversité et l'inclusion. Ça ne devrait pas être un service à part.
Mais non.
C'est comme si tu dis dans l'entreprise, ils vendent des camions, puis ils font le service après-vente, puis ils font la mécanique. Ben, OK, la mécanique, le vendeur ne fait pas la mécanique. C'est correct, c'est des choses distinctes. Mais oui. En entreprise, l'inclusion, ça concerne tout le monde.
C'est ça.
L'inclusion, c'est d'être ouvert à l'ensemble des personnes qui pourraient venir enrichir notre force de travail. C'est ça, l'inclusion. Mais si tu dis, on va faire un département de l'inclusion, qu'est-ce que ça fait? Ça fait dire aux autres personnes dans l'entreprise que c'est leur responsabilité de faire de l'inclusion.
Ben oui, c'est ça.
C'est pas la nôtre.
On ne s'inclut pas là-dedans.
Le camionnage, l'entreprise de vendeur, pardon, de fabricant de camions,
oui.
Bien, si on parle d'inclusion, ça va concerner autant la personne qui est au service après-vente que les vendeurs, que les comptables, que les mécaniciens et bon, ainsi de suite. Ça concerne tout le monde, l'inclusion. Puis, il faut que ça soit en amont. Il faut y penser avant. Si on parle, par exemple, d'accessibilité universelle, bien, il faut la penser d'avance. Ça a commencé l'accessibilité universelle avec l'architecture.
Oui.
On s'est dit qu'il faut que les bâtiments soient accessibles à tout le monde.
C'est ça.
Donc, on les a fait au ras du sol, ou on a mis des ascenseurs, ou on a mis une rampe d'accès en construisant l'édifice, plutôt que d'ajouter des choses à la fin. Mais justement, les édifices inclusifs, pensés comme ça, rarement il y a une rampe d'accès. La rampe d'accès, c'est une compensation pour quelque chose qu'on avait pas pensé avant. Tant mieux qu'on en mette une, il faut en mettre si on n'en a pas. Mais l'accessibilité universelle, ça veut dire, quand je disais tantôt, une création de postes inclusive. Ça veut dire quand tu crées ton poste, pense que tu pourrais avoir toutes sortes de monde intéressé à l'occuper ce poste-là. Donc, si tu utilises un jargon super compliqué pour parler du poste, bien, tu vas éliminer les gens qui ont une moins bonne littératie. Bien, ils sont peut-être capables de faire le poste.
Uh-huh.
Si le jargon est super compliqué, tu viens de perdre ceux qui ne sont pas à l'aise avec le jargon. Si tu as une façon de présenter tes choses en disant une entreprise dynamique, innovante, une start-up, blablabla, bien là, maintenant, il y a des gens, selon le vocabulaire qu'ils utilisent, puis tu dis, viens te joindre à notre équipe flyer.
Oui, ça leur tente moins.
Et plus. Parce que notre discours, notre façon de présenter les choses vise est limitatif. Là, si tu cherches à atteindre des gens en particulier, bien, ils ne visent pas tout le monde, à moins d'avoir des multi-campagnes de recrutement.
C'est ça.
On pourrait avoir une façon d'attirer les gens expérimentés, d'attirer les nouveaux arrivants, d'attirer les jeunes, d'attirer les femmes dans les métiers non traditionnels, mais il faudrait toutes les faire. Faudrait toutes
moi,
les...
le Martin, là, j'ai vu l'année passée passer sur les réseaux sociaux une annonce d'une compagnie de communication qui ne voulait pas de vieux.
Hein?
C'est grave, là.
C'est grave.
C'est très grave, c'est de l'agisme, là.
Exact. Donc, quand on parle d'inclusion, c'est ça, il faut penser autrement que de créer des équipes d'équité, diversité, inclusion à part. Il faut inculquer des valeurs d'équité, diversité, inclusion qui vont concerner tout le monde dans l'entreprise. Il faut avoir une politique qui va concerner tout le monde et tous les départements. Malheureusement, on entend encore des choses dans les dernières années. Moi, j'ai été témoin de certaines choses qui m'ont assez surpris. dans des grandes organisations, entre autres publiques ou parapubliques, ils organisaient des colloques, puis là, ça se réunissait, puis des gens de divers horizons, les banques, les municipalités, les sociétés d'État. Puis là, ils regardaient comment on peut améliorer l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap.
Il n'y avait pas de personnes en situation de handicap, là?
Il y en avait rarement, c'est un fait. C'est peut-être pas la pire chose. La pire chose que j'entendais dans ces réunions-là, c'est OK, là, nous, on a travaillé sur quelque chose, puis ils étaient fiers. On a fait la liste des postes qui pouvaient être occupés par des personnes en situation de handicap. Mais quand le reste, c'est la liste où tu as décidé que les gens en situation de handicap n'occuperaient pas ces emplois-là. Mais oui.
C'est ça, tous les postes peuvent être accessibles à tout le monde.
Ben oui, c'est pas tout le monde qui peut faire n'importe quel poste.
C'est pas tout le monde qui a le même handicap non plus.
Je pourrais pas être ambulancier parce que moi, ramasser les morceaux à terre dans le métro de quelqu'un qui s'est jeté devant le train, je m'excuse là, mais je pourrais pas faire ça.
Moi non plus.
Moi, je peux faire un massage cardiaque si je suis poigné pour le faire, ou le bouche à bouche, ou mettre un garrot si quelqu'un s'est coupé, là, mais ça s'arrête là, puis il ne faut pas que je regarde.
C'est ça. Donc, le plasteur n'est pas tout le temps à bonne place.
Personne ne peut tout faire, mais on ne peut pas dire qu'il y a juste des choses hyper logiques. Un aveugle ne postulera pas pour être chauffeur d'autobus. Ouais.
Mais non.
C'est correct. Mais il n'est pas fou non plus. Là. Il ira pas.
Mais non.
Donc, mais toi, tu n'as pas besoin de faire une liste, de dire, ah, les aveugles ne peuvent pas faire ça, les sourds ne peuvent pas faire ça.
Mais non.
Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Reçois les candidatures en toute ouverture.
Ouais.
Et recherche la capacité à faire le travail, pas des incapacités à faire d'autres choses, mais la capacité à faire le travail. Bon, c'est assez logique, mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe.
NeuroPlus, ça existe depuis combien de temps, Martin?
Formellement, depuis le 1er juillet
2021. Hey, c'est super, hein? Puis on entend de plus en plus parler de NeuroPlus. Moi-même, j'ai entendu ça par mes réseaux sociaux au début. Là.
Oui, bien, ça se passe bien. On a des bonnes collaborations avec nos clients, mais on a des bonnes collaborations avec des organismes aussi parce que, comme je disais tantôt, il existe plusieurs joueurs sur le marché qui s'occupent d'inclusion, d'intégration en emploi, de personnes neuroatypiques. Fait que l'idée, c'est de pousser tous dans la même direction.
Mm-hmm.
Puis, on a été très heureux d'être honorés au gala du réseau Action TI. On a remporté notre classe pour la catégorie Capital humain.
Wow! C'est super! Félicitations!
C'est très bien d'être connu par nos pairs dans le domaine des technologies.
Mais oui!
C'est ça, on s'efforce d'être visible, on s'efforce de rejoindre le plus de gens possible. Puis, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai dit que ça ne demandait pas de diagnostic hein, pour venir chez nous.
Oui, tu l'as dit, puis ça, je trouvais ça très, très, très intéressant.
Ouais.
Parce qu'il y a des gens souvent qui pensent qu'ils vont être stigmatisés s'ils n'ont pas le diagnostic. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont être stigmatisés s'ils ont un diagnostic. Là, c'est ouvert à tout le monde. T'sais.
Exact. Il y a une autre chose que je voudrais dire, je vais revenir sur l'accompagnement.
On a
parlé de fréquence, on a parlé de suivi pendant les heures de travail, de parler au superviseur. Mais l'accompagnement, en gros, je dirais que ça touche trois catégories de situations.
OK, vas-y.
C'est-à-dire qu'il y a une situation au travail, puis là, l'accompagnement va impliquer mon intervention, par exemple, en milieu de travail ou avec des collègues ou superviseurs de la personne. Donc, c'est une intervention pour soutenir la personne et son superviseur ou son équipe, peu importe, mais qui va être visible en milieu de travail. Par exemple, si je reprends des directives qui ont été formulées qui n'apparaissent pas assez claires à la personne, puis moi, j'ai une compétence pour écrire des directives de façon plus claire, sans ambiguïté et tout, bien, je peux reprendre des directives, les réécrire puis les proposer.
OK.
Là, ça va être pour la personne, mais ça va être pour tous les autres qui peuvent en avoir besoin aussi.
Ben oui.
Mais on le voit en milieu de travail. Bon. Il peut avoir des besoins qui concernent le travail, mais l'intervention ne sera pas visible au travail. Je donne un exemple d'une consultante qui travaillait sur place, c'était avant la pandémie. Je travaillais dans une autre organisation, mais je faisais grosso modo la même chose. Qui m'a demandé, puis elle m'a toujours vous voyez, elle dit, Monsieur Prévost, elle dit, j'aimerais ça savoir, être capable de savoir quand une réunion est terminée. Ben c'est vrai que, je pose la question, pourquoi tu me dis ça? Mais tout de suite, j'ai bien vu, tu regardes, des fois, les gens se mettent à parler de toutes sortes de choses en réunion.
C'est ça.
Puis, s'il n'y avait pas un ordre du jour, là, tu ne sais pas. Si tu finis, on est-tu juste dans le social, dans les conversations de... Est-ce que je peux m'en aller? Comment je fais pour savoir, puis je ne veux pas commettre d'impair? Bon, bien, cette intervention-là, je l'ai faite avec elle, mais en dehors du travail.
C'est
j'ai
ça.
J'ai discuté avec elle, j'ai fait un outil. Elle a consulté l'outil, elle dit ça me convient parfaitement, c'est beau. Elle m'a aussi demandé à un moment donné savoir à qui dire vous et à qui dire tu au travail.
Ah, OK. C'est intéressant.
Bon, il y en a d'autres qui auraient besoin d'apprendre ça. Puis, j'ai fait son outil, puis elle s'en est servie, mais ça n'a pas paru au travail. Les gens ne l'ont pas vu. Ils ont peut-être vu une différence parce qu'elle savait mieux à qui dire vous es-tu après.
Mais oui.
Ils n'ont pas vu l'outil, ils n'ont pas vu l'intervention.
Non, c'est ça.
Et la troisième catégorie, ce qui nous démarque peut-être encore plus de certains mêmes organismes communautaires qui font déjà du bon boulot, c'est l'accompagnement pour des choses qui ne concernent pas le travail.
Ah.
Par exemple, on avait un consultant, c'était la première fois qu'il devait faire une déclaration de revenus.
OK.
Il ne savait pas comment faire, il ne savait pas où trouver l'information, il ne savait pas quand est-ce qu'il fallait le faire, mais la chose qu'il avait retenue et qui justifiait qu'il demandait de l'aide, c'est « Je sais que si je ne le fais pas au bon moment, si je le fais en retard, je vais avoir une amende. »
OK.
Alors, ben là, il était stressé. On lui a trouvé les ressources, on l'a accompagné là-dedans. Voici, il y en a qu'on aide pour des demandes de permis de travail parce qu'il arrive de l'étranger. Il y en a qu'on va aider à se trouver un logement. Parce qu'ils ont...
Un comptable.
Puis qu'ils n'ont pas de ressources. C'est sûr, quand ils ont les ressources, ben on n'en entend pas parler. Puis en passant, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai déménagé la semaine passée. Cool, t'es rendu où? Qu'est-ce qui t'a aidé? Ben, ma famille. Parfait. Mais des fois, les gens n'ont pas les ressources. Fait que nous, on peut aider. Mm-hmm. Ou sinon, l'aide, c'est de le faire avec la personne, lui trouver l'information, ou des fois, c'est de trouver une autre ressource. Si c'est plus spécialisé, par exemple, c'est sûr que moi, si quelqu'un me pose des questions sur ses droits comme travailleur, ben, je les ai les réponses. Puis si je les ai pas, je sais où les trouver. Mais parfois, si quelqu'un, finalement, on se rend compte, c'est quelqu'un qui a besoin de consulter en psychologie, ben, on n'a pas de psychologue dans l'équipe. Donc, on va essayer de lui trouver une ressource. Donc, aider la personne dans son cheminement vers une aide pertinente et suffisante pour un meilleur fonctionnement. Et bien sûr, si on diminue le stress de ce côté-là, deviner ce que ça fait pour le travail, bien, ça permet de bien continuer au travail.
Un employé plus heureux, plus épanoui. Bien,
plus étendu, il est plus en mesure de faire un bon rendement au travail sans être trop stressé. Là.
Wow! C'est
le seul but.
Et je me posais une question. Pour les gens neuroatypiques qui font affaire avec vous, est-ce qu'ils ont des frais à débourser pour faire affaire
non.
avec NeuroPlus?
Il n'y a pas de frais. La façon dont on fonctionne, c'est qu'on vend les services de nos consultants à un client. On paye nos consultants selon les salaires du marché. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc, alors, juste pour être sûr que j'ai bien compris, Martin, si tu engages Isabelle, par exemple, pour un poste quelconque, elle va être payée le même montant que sur le marché, normalement, elle serait payée.
Exactement.
Parfait.
Puis, le marché, bien, c'est sûr que le marché, des fois, il est un peu varié.
Oui.
Par exemple, si on dit être, des fois, le même poste avec la même expérience, n'appelle pas le même salaire selon l'entreprise. C'est
ouais.
sûr que d'être adjoint administratif dans un organisme communautaire, ça ne paye peut-être pas autant que d'être adjoint administratif du deuxième côté d'une banque.
Oui,
c'est sûr.
Donc,
c'est logique.
Il y a des entreprises qui ont plus de moyens pour offrir des bonnes conditions, des bons salaires, mais on va comme dans les moyennes. Donc, il existe des chartes, on trouve des trucs. On peut trouver facilement sur le web quelles sont les échelles salariales qu'on voit quand tu as tant d'années d'expérience. Et ainsi de suite. Donc, oui, on va avec les tarifs du marché autant que possible.
Moi, j'ai une autre question, Martin. Quand on travaille pour NeuroPlus, est-ce qu'on est automatiquement un employé ou on peut être travailleur autonome aussi?
Bonne question. Le modèle veut qu'on y aille plus avec des employés parce que c'est ce que les gens préfèrent en général.
Okay.
Mais on est ouvert. Puis des fois, on a même des meilleures occasions avec notre client. Ça peut être meilleur pour tout le monde. Pour le client, pour le travailleur ou la travailleuse, que ça se fasse à contrat. Donc,
okay.
C'est tout à fait possible. Si quelqu'un préfère, en fait, nous, on va respecter la préférence. On va respecter la préférence. En principe, nous, c'est plus engageant d'une certaine manière de l'avoir comme employé. On a plus de responsabilités. Mais notre modèle, au départ, c'est ça. C'est d'offrir à tout le monde de les prendre comme employés. Mais la personne préfère le faire comme...
C'est habituée, par exemple, de toujours être contractuelle, puis elle ne veut pas changer, elle est habituée comme ça va bien.
Il y a eu plusieurs situations où c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, des gens qui avaient une habitude ou même des gens qui l'ont fait pour la première fois. Ah, on a été envoyé, mais là, la situation était plus favorable pour tout le monde si c'était à titre de contractuel. Donc, c'est le choix qui a été fait. Puis, je vais parler de quelque chose parce que c'est quand même important de le savoir. Nous, on fait des employés, mais on les emploie une fois qu'on a un contrat pour eux chez un client. OK, on les une fois que le processus de recrutement est terminé, on ne les embauche pas immédiatement. On les embauche pas si on n'a pas de contrat. Donc, on cherche un mandat. Et là, est-ce que ça fonctionne? On a parlé de tout le processus tantôt, la sélection avec les
clients.
Bon. Puis, les mandats, ben, ils ont une durée limitée habituellement. Et donc, par exemple, souvent, ça commence avec un an. Des fois, c'est un peu plus court, mais le plus souvent, c'est un contrat d'un an. Puis, on va mettre des clauses que c'est renouvelable facilement. Il ne faut pas se compliquer la tâche. Donc, au fond, la personne est au courant, on t'embauche pour un an. Puis, au bout d'un, ben vers la fin, on va savoir si, par exemple, le client a encore du travail pour toi, puis souhaite te garder, puis si toi, tu souhaites rester.
Si le contrat est reconduit.
On va prolonger, puis c'est pas obligé d'être la même durée, on peut prolonger pour 2 ans. Nous, on n'a pas de limite, on peut garder quelqu'un 20 ans au même endroit, c'est pas un problème, là. Au contraire, ça fait l'affaire de tout le monde. Ça existe sur le marché. Des entreprises qui vont avoir un certain nombre d'employés dans un domaine, puis un plus, souvent plus petit pourcentage de consultants, puis des consultants qui restent. Parce que l'entreprise les aime bien, puis c'est des gens qui ne veulent pas devenir employés. Donc, nous, on a des gens, par exemple, qui vont dire, non, moi, je veux rester employé de NeuroPlus parce que je veux mon accompagnement.
OK.
Parce que le service qui vient avec.
OK.
Un choix personnel. Quelqu'un pourrait dire, je ne sais pas, moi, au bout d'un certain temps, l'entreprise pourrait vouloir l'embaucher directement. Bon, là, il y a des clauses contractuelles par rapport à ça, mais il y a des gens qui vont dire non. Moi, je veux l'accompagnement.
C'est ça.
Il y a des gens qui viennent nous voir chez NeuroPlus. Il y en a plusieurs qui sont nouveaux sur le marché du travail, mais il y en a un bon nombre qui sont expérimentés. Ils font carrière. Ils ont déjà un emploi.
OK.
Ils viennent chez nous parce qu'ils veulent que ça se passe mieux.
Ben oui, c'est ça.
Parce que.
C'est le petit plus de NeuroPlus.
Pardon, le plus de NeuroPlus, oui. Parce qu'on ne connaît pas bien leurs besoins ou parce qu'ils n'ont pas osé les dire, parce qu'ils n'ont pas osé s'afficher comme personne neuroatypique ou parce qu'on ne reconnaît pas bien leurs forces aussi.
Oui.
Ce n'est pas toujours juste les besoins qui ne sont pas reconnus. Des fois, c'est les forces. Ou des fois, les besoins peuvent être reconnus, mais pas les forces.
Oui. C'est vrai.
Quand je dis qu'il faut accepter d'être surpris, là, nous, on en a des gens qui sont vraiment, vraiment bons dans leur domaine. On a des gens qui nous arrivent, il y en a qui m'ont dit, garde, moi j'ai un emploi à 40 heures, je suis payé 40 heures, je fais le travail en 10 heures. Mon patron le sait qu'au bout de 10 heures, j'ai fini, mais il me paye mes 40 heures parce que je fais le travail pour 40 heures.
Oui.
Bon, le petit côté moins de fun, c'est dit, mon patron ne peut rien savoir de me laisser partir à la maison quand j'ai fini mes 10 heures.
Oui, c'est ça.
Je reste au bureau, ma job est finie, j'ai rien à faire. Et j'aimerais ça pouvoir être chez nous. Je vais être proche de mon téléphone, pas de problème. S'il y a un problème au travail, il y a juste à m'appeler.
C'est ça.
C'est dans mes heures prévues de travail, fait que je vais répondre. Mais non, ça ne passait pas.
OK.
Puis il y a toute cette notion-là, des fois, c'était vu comme probablement comme un privilège.
Oui, c'est ça.
L'employeur n'aurait pas été capable de justifier auprès des collègues. Nous, on est là pour expliquer la différence entre un accommodement et un privilège.
Puis, c'est bien ça.
Puis souvent, ben, on ne veut pas trop faire de l'ironie, là, mais c'est parce que quelqu'un qui a besoin de plusieurs accommodements pour bien fonctionner sur le marché du travail, c'est parce qu'il rencontre des obstacles dans la vie pour faire certaines choses. Puis, il ne l'a pas facile souvent. Ouais. Ben là, OK, tu trouves que j'ai des privilèges, qu'on ait enlevé les néons au-dessus de mon bureau ou qu'on m'ait donné un bureau fermé?
C'est ça, là, il y a le choix du vocabulaire. Ouais.
Est-ce que c'est vraiment un privilège d'être moi-même avec les difficultés que je rencontre? Pas sûr.
C'est ça.
Fait qu'il y a de l'éducation à faire là-dessus. Puis pas parce que tu donnes quelque chose à quelqu'un que ça enlève quelque chose à quelqu'un d'autre, mais bon, ça dépend toujours des milieux, ça dépend des individus, mais des fois, il y a de l'éducation à faire, il y a de la sensibilisation à faire.
Oui, pourquoi?
C'est super. C'est super de se rencontrer aujourd'hui, Martin, parce que on te rencontre, là, c'est le temps des fêtes, OK? Puis on te rencontre parce que ça donne d'espoir aux gens qui sont neurodivergents, qui sont autistes, par exemple, ou peu importe la neuroatypie qu'ils ont, de peut-être trouver un travail qui leur conviendra mieux, s'ils en ont déjà un, ou d'en trouver un qui, pour la première fois, dans lequel ils vont se sentir bien.
Puis Je pense qu'il faut regarder les succès de nos consultantes et de nos consultants comme des, un peu comme des modèles, dans le sens, et de l'espoir de façon générale, parce que, bien sûr, nous, on veut accueillir plein de gens chez nous, puis on veut les embaucher, puis leur trouver des beaux contrats et tout, mais juste pour certaines personnes d'apprendre que ça peut fonctionner, que oui, il y a des milieux de travail qui sont ouverts à faire des accommodements, qui sont ouverts à apporter des changements aussi, parce que, oui. Bon, puis il y en a juste de savoir ça, ça va leur donner plus de pep un peu ou d'encouragement pour aller le faire peut-être par eux-mêmes, peut-être sans nous, sans un organisme communautaire, mais de voir des réussites, de voir des modèles, c'est toujours bon.
Oui. Absolument. Puis il n'y a pas juste les individus qui peuvent aller vers vous, les entreprises qui peuvent communiquer avec vous, hein?
Tout à fait, bien sûr. Oui, effectivement, il y en a qui nous cherchent et qui nous trouvent. oui, puis il y a des gens... C'est clair, je trouve ça fort intéressant. Là. Il y a certains milieux, effectivement, on va dire, « Hey, nous autres, là, c'est d'un bout de temps qu'on en parle, puis là, il faut passer à l'action, puis on cherche une ressource. Bon, là, vous avez trouvé, OK, puis là, il faut que ça marche. » Là, ils disent, nous autres, des fois, on entend ça, là. C'est souvent c'est les gens plus haut placés dans la hiérarchie, là, à un moment donné, « Hey, il faut que ça marche. »
Ouais, c'est ça.
On voit ça en bas, puis des fois, en bas, ça traîne un peu. Là, que, « Hey, qu'est-ce que ouais, c'est ça? » »« Hey, j'ai dit que je vais en embaucher au moins deux cette année, là. » Ben, c'est pour les bonnes raisons. Fait qu'à partir de là, de toute façon, ils ne se mêlent pas de penser qu'ils savent comment tout faire. Ils vont chercher une expertise. Donc, à ce moment-là, c'est le fun. Moi, j'ai vécu dans ma carrière beaucoup de rencontres intéressantes avec des employeuses et des employeurs. Puis, il y en a qui me disaient, « Ah, ben enfin, vous êtes là. » Parce que moi, j'y ai pensé à faire ça. J'ai même déjà eu des candidatures que j'ai reçues, que c'était clair que c'était des personnes en situation de handicap. Mais... Il dit, je connais tellement rien là-dedans que j'avais peur de faire pire si je les embauchais que si je les embauchais pas. J'avais peur d'être nuisible, j'avais peur de les mettre en échec parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Quand quelqu'un te tient ce discours-là, habituellement, si tu offres ton aide, il apprend.
C'est ça. Ça mérite d'être clair, tu sais.
J'ai pas eu l'occasion. Non, non, je voulais le faire, mais je ne savais pas comment faire.
Il avait peur de se tromper,
dans le fond. Exact.
C'est peut-être le cas de beaucoup d'employeurs, en fait.
J'avoue, j'ai de la misère à le savoir. Je ne sais pas si c'est le cas tant que ça, mais peu importe. De toute façon, l'important, c'est que les employeurs finissent par trouver une réponse puis qu'ils sachent qu'il existe des ressources. Bien sûr, quand les employeurs s'affichent aussi, nous, on en a des partenaires, que ça n'a pas été long, on a commencé à travailler ensemble, puis déjà sur LinkedIn, ils n'arrêtaient pas d'en parler, puis ils faisaient des références, puis tout ça. Fait que bravo, je veux dire, au fond,
nos partenaires...
Sont des modèles. Fait qu'autant, je disais tout à l'heure, les personnes neurotypiques ont besoin de modèles de réussite, bien, les employeurs qui veulent être inclusifs ont besoin de modèles de réussite aussi.
C'est vrai.
Ben oui, absolument. Ouais. C'est super. Puis en terminant, Martin, tu dirais quoi comme mot de la fin, toi?
Bien, je dirais, dans le doute, ne vous abstenez pas. Ça s'adresse autant aux personnes neurotypiques qu'aux employeurs. Contactez-nous. On va voir quelle est votre situation dans une situation comme l'autre, que ce soit chercheur d'emploi ou employeur. On va voir quelle est votre situation, puis on va essayer de vous aider.
Mais c'est super, ça. Puis je pense que c'est un beau cadeau de Noël qu'on fait à nos auditeurs, hein, Isabelle?
Absolument.
Donner de l'espoir comme ça. Puis tu étais la personne idéale, Martin, pour qu'on jase avec toi aujourd'hui dans cet esprit d'espoir-là.
Ça m'a fait bien plaisir, madame.
Ben merci à toi.
Merci.
Isabelle, on se revoit dans un autre épisode.